Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre du Deutéronome. Deutéronome, cinquième livre de la Bible. Deutéronome, au chapitre 5. Deutéronome, chapitre 5. Pour en lire un des grands textes de la Bible, les dix commandements. Deutéronome chapitre 5, verset 1er, et puis je sauterai pour lire ensuite les versets 6 à 21. Il s'agit donc d'une deuxième mouture, en quelque sorte, de ces dix commandements, très proches d'Exode 20, puisque nous avons un premier texte dans Exode 20, légèrement différent, non pas contradictoire, mais légèrement différent. Je lis donc chapitre 5 du Deutéronome, verset 1er. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Verset 6. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Et c'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous allons dans le Nouveau Testament et dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, dans le cadre de toute une série d'enseignements très pratiques concernant la vie du croyant dans la société, à commencer par sa vie de famille. Éphésiens 6, nous en lisons, en tout cas pour ce soir, les trois premiers versets. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et puis enfin, un peu plus loin encore dans le Nouveau Testament, dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3 de Timothée, chapitre 3, un court tableau, bien peu glorieux de notre époque, dans les cinq premiers versets. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, littéralement amoureux d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants ou sans discipline, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, aimant les imprudences, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je me mets ce soir dans la peau d'un certain nombre d'entre vous qui attendiez, il y a de cela plus d'une année, avec une certaine impatience, que nous abordions ce sujet, l'éducation des enfants, et qui brûlaient à l'époque de cette envie tout à fait légitime d'entrer de plein pied dès la première étude dans le vif du sujet et d'aborder donc toutes ces questions pratiques que nous n'avons pas abordées jusqu'ici. Alors ils se disent maintenant, enfin, ouf, nous avons attendu une année, puisque ça fait environ une année, à peu de choses près, que nous avions commencé, et nous y sommes. Néanmoins, je ne regrette pas un seul instant de vous avoir fait attendre, puisque notre thème était très exactement, vous vous en souvenez, l'éducation des enfants, priorité, au pluriel, et équilibre. Et il va de soi que nous devions donc aborder les grandes priorités sur lesquelles repose la pratique de l'éducation. À quoi sert-il donc de vouloir bâtir une maison sans poser d'abord des fondations? Et nous avons donc consacré 6 études à poser des fondations. Lors du premier week-end des 10 et 11 février 2001, nous avons considéré la première des priorités, la priorité par excellence, celle par laquelle il faut commencer, éduquer par l'exemple, l'importance de l'exemple, sans lequel tout ce qu'on peut ensuite faire et dire a si peu de crédibilité, surtout au regard de nos enfants qui n'en manquent pas une quand ils voient ou sentent la contradiction entre le vécu et le langage de l'éducation. Nous avons donc consacré trois études à cette première priorité, éduquer par l'exemple, avant d'aborder une seconde priorité, elle aussi absolument fondamentale, qui va de soi, qui est bon sens par excellence, quoique cette priorité soit continuellement remédiée dans je ne sais quel cagibi où elle est en train d'être de plus en plus négligée. Nous avons donc considéré dans les trois études suivantes, les 16 et 17 juin 2001, cette seconde priorité qu'est la présence avant les sous. Parce que pour éduquer, il faut qu'il y ait des éducateurs. Ça va de soi. Et pour éduquer des enfants, il faut qu'il y ait des éducateurs. Et normalement, je dis bien normalement, les premiers éducateurs des enfants doivent être les parents. Alors, bien entendu, nous avons pris soin d'apporter les nuances qu'il fallait, priorité et équilibre. C'est-à-dire que nous avons eu quand même le souci et la courtoisie, et les écritures ont le souci et la courtoisie de montrer qu'effectivement la présence des deux parents n'est pas toujours possible. Parfois même, elle disparaît par un tragique accident, une maladie grave, avec un décès pour conséquence, l'un des deux parts, etc., n'est-ce pas? Mais ces situations douloureuses ne devraient être que situées jusqu'à un certain point, à la périphérie. Parce que dans la plupart des cas, les enfants devraient être éduqués par leurs parents. Et nous avons là touché un sujet très, très délicat, très difficile, très contesté aujourd'hui, puisqu'il est devenu totalement anormal qu'une maman reste à la maison. Il paraîtrait que quand on reste à la maison, on ne travaille pas. Alors moi, je n'ai pas encore réussi à avaler ça, parce que j'ai encore entendu ce soir une maman dire « je ne travaille pas ». Je n'ai pas rétorqué, je me suis tenu quoi, mais je me disais en moi-même, mais la pauvre, que fait-elle donc si elle ne travaille pas lorsqu'elle s'occupe de son foyer et de ses enfants? Bref, nous ne voulons pas refaire ce soir cette étude, puisqu'il y a eu trois volets en juin 2001, mais vous comprendrez, je l'espère, l'importance de la place de la maman et de la place du papa. Chacun avec son rôle complémentaire à celui de l'autre. Il est une chose que je n'ai pas dite et qui permettra en quelque sorte de faire le lien entre ces six premières études et les six suivantes que nous inaugurons ce soir. Ce que je n'ai pas souligné fortement, c'est que nous devrions nous souvenir de deux réalités extrêmement importantes. La première, c'est que nos enfants forgent leur première image de Dieu, leur première idée de Dieu, leur première vision de Dieu à travers papa et maman. Cela veut dire que, pour prendre quelques exemples, un père dur, autoritaire, lointain, qui communique peu, distant, va donner à ses enfants la vision d'un Dieu dur, d'un Dieu lointain, d'un Dieu qui communique peu, d'un Dieu qui tape du poing sur la table. Et ces enfants ou cet enfant va avoir de la peine à saisir, à comprendre et à appliquer à sa propre vie cette merveilleuse dimension que nous allons évoquer dans les règles d'éducation pratique des enfants. Je veux parler de la grâce, c'est-à-dire de la générosité, de l'esprit de pardon, de la chaleur affective qui doit aussi émaner d'un père. Et il est vrai que aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, on rencontre de plus en plus de personnes qui viennent de découvrir Christ, de lui donner leur vie, et qui ont un problème à ce niveau-là, qui ont de la peine à comprendre la beauté du Dieu qui fait grâce, la beauté du Dieu qui pardonne, la beauté du Dieu qui s'approche, qui entre dans l'intimité de la personne, avec lequel on peut avoir une relation très très proche. Et souvent, lorsque l'on cherche un peu, en s'entretenant avec ces personnes, on se rend compte que il y a eu toute une part de lacunes fondamentales au niveau de l'absence ou de la distance ou de la dureté d'un père pendant les années d'éducation. Par contre, un père mou, un père lâche, démissionnaire, va donner généralement de Dieu à ses enfants l'idée d'un Dieu non respectable, d'un Dieu sans colonne vertébrale, d'un Dieu grand-papa à la longue barbiche blanche, d'un Dieu que l'on peut tromper, que l'on peut manipuler. Nous pourrions nous tourner vers la maman. Une maman fidèle, affectueuse, va aider l'enfant par sa présence, par sa fidélité, par son affection, à saisir, elle aussi, la bonté, la patience, l'attention de Dieu. Ce que je veux dire par là, parce que nous pourrions continuer, c'est que la vie conjugale, la vie familiale, est déjà en elle-même un cours de théologie, un cours de doctrine de Dieu, ou de fausse doctrine, de Dieu, du pardon et d'autres grandes réalités. Nous vivons dans une société qui génère de terribles handicaps pour la perception du vrai Dieu. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne veulent pas de Dieu, parce qu'ils ont une idée de Dieu qui a été complètement déformée, caricaturée, avilie au travers de la dislocation de la société ou encore du type d'enseignement religieux qu'ils ont pu avoir à l'heure de leur propre éducation. Ça, c'était la première des réalités importantes dont nous devons nous souvenir. Il en est une seconde, qui est aussi très importante. Nous devons nous souvenir que le papa, le père, est le premier homme dans la vie de sa fille, s'il a une fille, ou plusieurs. Et donc, en étant le premier homme dans la vie de sa fille ou de ses filles, il ne réalise pas toujours qu'il va influencer plus tard, dans une grande mesure, l'attitude que sa fille aura à l'égard des hommes dans sa propre vie conjugale. Regardez le type de relation qui existe entre un père et sa fille, la qualité de vie du père dans sa relation avec sa fille et dans sa vie normale, et il y a de fortes chances que vous en voyez le reflet ensuite, lorsqu'à son tour, elle va connaître dans sa propre vie personnelle l'homme de sa vie. Et de la même manière, la mère est la première femme dans la vie du fils. Et c'est pourquoi elle va aussi influencer plus tard, dans une grande mesure, l'attitude de son fils à l'égard des femmes, et en particulier à l'égard de celle que son fils épousera. Il vaut la peine de réfléchir et il valait la peine de souligner ces deux grandes réalités qui découlent de cette nécessaire présence avant les sous, que chacun soit à juste, sa juste place dans l'éducation des enfants. Nous entrons donc dans ce grand chapitre intitulé « Les grandes règles pratiques de l'éducation ». Et là aussi, il nous faudra en tout cas un minimum de patience, parce que nous allons poser une petite toile de fond, vous verrez qu'elle n'est pas sans importance, à ces règles pratiques de l'éducation. Nous devons le faire parce que c'est ici que, de manière toute particulière, règne un immense trouble et une grande confusion chez de nombreux parents. De nombreux parents aujourd'hui sont très embarrassés, ils ne savent plus très bien à quel saint se vouer, parce que l'éducation des enfants est comme jamais à géométrie variable, dirions-nous, c'est-à-dire qu'on change les règles du jeu continuellement. Jamais on a autant évolué, changé, régressé, changé de cap dans ce domaine qu'à l'heure actuelle. Que de théories contradictoires. Quel flou dans ce domaine. Ce flou dans le domaine de l'éducation des enfants n'est que le reflet d'un flou bien plus général dans tous les domaines de la vie. Il est rare qu'aujourd'hui, dans notre société, sur des grandes questions morales, des questions de réflexion profonde de société, vous réussissiez à obtenir un consensus de la part de 10 personnes traitant du même sujet. C'est affolant. si vous suivez une émission de radio avec des auditeurs qui interrogent ou qui partagent leur point de vue, vous êtes très rapidement pris dans une espèce de tourbillon de pensées, de réflexions contradictoires. Vous allez avoir 10 personnes et 10 avis différents. Ça, c'est le drame de notre société. On n'a plus de règles. Alors, qu'est-ce qui nous a amenés à ce genre de situation? Alors, je ne vais pas beaucoup m'attarder, je pense que je n'en aurai pas la compétence d'ailleurs, et je pense que ça nous endormirait plus qu'autre chose, mais néanmoins, je crois qu'il nous faut évoquer très brièvement cette lignée de philosophes, et vous savez combien notre beau pays de France est marqué au coin de la philosophie. Il semble que ce soit notre légion d'honneur unique sur la terre entière. Je ne sais pas si c'est une très bonne légion d'honneur par ailleurs, n'est-ce pas, que cette manière d'abreuver toute jeune génération de concepts philosophiques parfois très destructeurs. Nous avons derrière nous toute une lignée de philosophes qui ont peu à peu miné les notions de révélation, d'autorité, d'existence de Dieu, d'absolu, de vérité. Alors j'en citerai quelques-uns sans m'attarder sur leur philosophie, mais peut-être pour en souligner simplement en une touche une des dominantes de leur conception philosophique. Certains feront tilt à votre esprit parce que vous en avez entendu parler, peut-être même les avez-vous étudiés, pour d'autres ce sera du latin, de l'hébreu ou du grec, mais peu importe. Je pense ici à Emmanuel Kant, philosophe allemand, qui avait fait d'ailleurs des études de théologie, c'est intéressant, avant de faire de la philosophie, des sciences, disons dans le milieu du XVIIIe siècle, et dont l'idée maîtresse, c'était qu'il n'y a pas d'absolu. L'absolu n'existe pas. Vous avez, ou à peine plus tard, Hegel, un philosophe allemand, pour lequel tout est relatif. Il n'y a pas de vérité. Et puis on arrive alors à un philosophe qui a une dominante religieuse, un théologien danois, penseur, Kierkegaard, qui lui va introduire dans le domaine religieux les principes des deux premiers, Kant et Hegel. Et il va dire que même dans le domaine religieux, il n'y a que la vérité de notre expérience qui compte. On ne peut parler que de vérités existentielles. Ensuite, on arrive à Karl Marx, 19e siècle, qui lui va reprendre ces principes évoqués, mais qui va les appliquer à la politique, y compris donc à la politique sociale, économique, en soulignant en particulier que la matière est la seule réalité. Cela veut dire, et là je le cite, il n'y a aucun plan, aucune loi, aucun Dieu n'existe. Il va d'ailleurs être terriblement en réaction contre la religion chrétienne, bien qu'il ait étudié, et on sait rarement que le premier ouvrage du jeune Karl Marx a été une sorte de commentaire sur un des évangiles. Tout est permis. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de vérité. On s'arrête à la matière. Alors, là, on peut déjà un petit peu toucher à la question des enfants, parce que je pense ici à cet homme de Dieu qui s'est éteint le 17 février 2001, Richard Wurmbrand, qui a été fondateur d'une organisation appelée l'Aide aux Églises Martyrs, tout simplement parce qu'il a connu des temps extrêmement difficiles, puisqu'il fut enfermé durant 14 ans dans les geôles communistes de Roumanie. Et il fut libéré en 1964 suite au paiement d'une rançon de 10 000 dollars par des croyants authentiques de Norvège. Et j'ai moi-même rencontré à diverses reprises le président d'un groupement en Grande-Bretagne qui était la cheville ouvrière de ce travail préparatoire pour que Richard Wurmbrand puisse quitter cette prison et ce pays contre caution. Et il a écrit plusieurs livres et racontait bien des choses sur sa détention. Ce qui l'a beaucoup marqué dans sa détention, c'est notamment d'avoir dû voir et supporter l'indicible, puisqu'il s'agissait de tortures d'enfants dans les prisons, parfois même sous les yeux de leurs parents pour faire craquer les parents. Et il lui est arrivé une fois d'interroger un des geôliers, et je crois même des tortionnaires, de ses enfants, de ses victimes innocentes. En lui disant, mais comment est-ce que vous pouvez torturer des enfants? Déjà que vous torturiez des adultes est quelque chose qui me fait horreur, mais que vous osiez vous attaquer à des enfants. Et avec une froideur, en même temps pleine d'ironie, ces persécuteurs de dire, mais écoutez, quand vous étiez chez vous et que vous vouliez accrocher un nouveau tableau sur un mur dans votre salle à manger, dans une des pièces de votre maison, vous alliez chercher un clou, vous alliez chercher un marteau, et que faisiez-vous? Vous mettiez le clou de la bonne manière et vous tapiez dessus pour enfoncer le clou dans le mur de manière à pouvoir accrocher votre tableau. Est-ce que vous avez pleuré au fur et à mesure que le clou s'enfonçait dans le mur? Ces enfants, mais c'est de la matière. Nous sommes de la matière. Vous voyez où on peut en arriver? Quand on pousse certains raisonnements concernant le refus de Dieu à leur extrême. Et moi, je ne m'étonne pas quand je lis ces paroles de Jésus dans un de ses grands discours sur la fin des temps, où il dit, c'est Matthieu 24, 12, parce que l'iniquité se sera accrue, et nous allons y revenir, parce que le mot iniquité est intéressant, c'est un petit mot qui signifie littéralement le fait de ne pas respecter la loi, de s'opposer même à la loi, d'être sans loi, de vivre dans l'anarchie, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il est évident que de telles conceptions, n'est-ce pas, vont se répercuter sur le climat de nos relations, et y compris le climat des relations au sein de la famille. J'ai ici aussi le nom de Nietzsche, aussi un personnage crucial qui pousse encore un peu plus loin et plus fort lorsque je le cite. Il dit « Dieu est mort, rien n'est vrai, tout est permis » et qui lui alors va prôner l'avènement de ce qu'il appelle un surhomme, n'est-ce pas ? Et en fait, de surhomme, Nietzsche va finir sa vie durant ses 10 dernières années dans la folie. Parce qu'on reconnaît aussi l'arbre à ses fruits. Et puis, il faut dire un mot de Freud. Et Freud, eh bien, c'est pas de la joie. Bien que Freud veuille dire joie en allemand, c'est pas de la joie. Freud, neurologue, psychiatre autrichien, fondateur de la psychanalyse, décédé en 1939, dont nous sommes obligés de parler quand nous évoquons les règles pratiques de l'éducation des enfants, tout simplement parce que c'est sans doute le penseur qui a eu le plus d'influence sur notre époque. Toute notre civilisation, nos principes d'éducation, notre morale sociale sont imprégnés de freudisme. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Bien sûr, son œuvre est gigantesque, mais essayons de retenir des choses essentielles qui vont nous servir plus tard. L'homme, selon Freud, est motivé par le plaisir. Essentiellement par celui qui naît de sa sexualité. Mais le problème, c'est que quand l'homme veut satisfaire ses désirs érotiques, il a en face de lui de la résistance. Il est brimé, réprimé par la société. Et Freud dit ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Il faut pouvoir suivre les impulsions de sa nature. Il faut pouvoir suivre ses instincts. Il faut pouvoir être soi-même. Il faut donc, pour cela, refuser de se laisser brimer, se laisser réprimer, canaliser par des lois. Les lois, c'est dangereux parce que ça bloque. Ça crée des complexes. Ça amène à des névroses. Alors, pour que l'homme soit heureux, il doit être débloqué. Il faut qu'il puisse faire ce que la loi interdit. Et selon Freud, la norme de l'homme doit être ce qu'il ressent, ce qui lui fait plaisir lui-même. Pas besoin de Dieu, pas besoin d'un père qui dirige, un père qui interdit, un père qui brime. C'est un concept dépassé. La loi est traumatisante, elle est contraignante, elle est anti-liberté. Et ce qui est curieux, c'est que ces hommes que nous avons évoqués rapidement, ils vont être inspirés par quelqu'un dont nous avons beaucoup entendu parler, qui a vécu un peu avant eux, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, lui, est né en 1712 et mort en 1778. Et c'est le grand inspirateur de ces penseurs, lui qui a émis ce postulat, je dis postulat parce que c'est un véritable acte de foi, complètement déraisonnable, comme nous allons le voir. L'homme est bon, ce sont les institutions qui le corrompent. Alors, il y a là quelque chose de très intéressant à souligner. Je ne vous parlerai pas de son enfance, parce qu'elle serait déjà très significative à bien des égards, concernant le développement de ses pensées ultérieures. Mais toujours est-il que, en 1749, les yeux de Jean-Jacques Rousseau tombent sur un texte dans un journal de l'époque, le Mercure de France, sur un texte qui est le sujet d'une dissertation mise au concours par l'Académie de Dijon. Il est alors à Paris. Voilà le texte de ce sujet de dissertation. Si les progrès des sciences et des arts a contribué à corrompre ou à épurer les mœurs. Ça l'intéresse. Il se dit, je vais concourir, mais quelle réponse est-ce que je pourrais donner à cette question posée ? Alors, tout d'abord, il pense donner la réponse qui soit la plus normale, et puis il dit, oh, mais ce serait banal. Je ne vais pas aller dans le sens de la pensée générale de la société jusqu'à présent. Il faut que je trouve quelque chose d'original. Il faut que je surprenne les gens par une pensée qui sorte de l'ordinaire. Et alors il va forger, tenez-vous bien, de toute pièce, quelque chose en quoi il ne croit pas. C'est simplement le but, essayer de remporter le concours en développant une pensée originale qui n'est pas celle du commun des mortels. Mais il n'y croit pas. Et c'est ainsi donc qu'il va construire sa dissertation qui s'appellera « Discours sur les sciences et les arts » et en développant cette thèse, l'homme est bon, les institutions le corrompent. Et voilà qu'il remporte la palme. Et le produit de son labeur, très original, commence à circuler dans les salons de Paris. Et notre Jean-Jacques Rousseau devient un personnage célèbre. Et le voilà contraint, à son corps défendant, contre sa volonté, de désormais défendre une thèse qu'il a inventée pour le concours. Il ne peut pas dire aux gens, vous savez, j'y crois pas. J'ai fait ça pour le concours. Et donc, à simplement répandre autour de lui, dans les salons parisiens, auprès des intellectuels de Paris, cette thèse, et à s'obliger à la défendre, il n'a pas d'autre choix, si vous voulez, il va finir par l'épouser. Et elle va ensuite l'accompagner pendant toute la suite de sa vie. Vous savez, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le nombre de pensées profondes qui dominent la mentalité de nos contemporains aujourd'hui et qui sont nées de cette manière. Si vous pensez à la position de Darwin, il est évident que vous verrez rarement écrit à quelque part que Darwin est de manière très claire revenu sur les idées qui se sont traduites par le transformisme, l'évolutionnisme d'aujourd'hui. À la fin de sa vie, il n'y croyait plus. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la grande religion évolutionniste occupe tous les esprits, et je pense ici ce soir à Ushuaïa Nature, cette magnifique émission documentaire d'un certain Nicolas Hulot, qui est un des grands chantres de l'évolutionnisme. Chaque fois qu'il a l'occasion de dire un mot là-dessus, il en profite, n'est-ce pas ? Alors, n'est-ce pas, nous sommes dans une société aujourd'hui où, dans quantité de domaines, on pense, parce que certaines personnes ont dit, alors qu'elles n'étaient pas forcément convaincues elles-mêmes au départ que c'était vrai, ou bien qu'ensuite elles ont changé complètement d'opinion lorsqu'elles se sont rendues compte qu'à quelque part, ça ne collait pas. Vous vous rendez compte quelles sont les bases de notre mentalité moderne? La fragilité et la vulnérabilité des piliers sur lesquels reposent nos conceptions, qui se traduisent ensuite dans nos relations les uns avec les autres au sein de notre société. Alors je tenais à l'indiquer, parce que quand vous savez ensuite qu'en 1762, Jean-Jacques Rousseau va écrire un livre de pédagogie intitulé « L'Émile », dans lequel il va développer sa conception de l'éducation. Livre qui va influencer très profondément l'enseignement, surtout celui de notre époque. Quand vous savez que, bien entendu, on est en 1762 maintenant, et n'est bon, c'est la société qui le rend mauvais. Il faut donc élever l'enfant à l'écart de la civilisation et suivre sa nature. L'enfant s'instruira de lui-même avec un maître non directif, se fiant à sa propre bonne nature. Alors, chers amis, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Quels ont été les fruits? Cet homme a été père. Il a vécu une vie même pas conjugale. En fait, il semble que peut-être il se soit marié sur le tard avec cette fameuse Thérèse Levasseur et qu'il ait même servi lui-même de prêtre dans son propre mariage. Il a eu une vie étrange. Mais quand on sait que Jean-Jacques Rousseau, dans ses relations avec Thérèse Levasseur, aura en tout cas 5 enfants, peut-être 6, et que chacun de ses enfants sera mis l'un après l'autre aux enfants trouvés, c'est-à-dire à l'assistance publique de l'époque. Vous voyez que nous rejoignons la première des priorités fondamentales, éduquée par l'exemple. Quel crédit peut-on donner à quelqu'un qui avance de tels arguments pédagogiques et qui n'est pas capable de faire autre chose que de mettre les enfants naturels, parce qu'il a eu d'autres aventures galantes, aux enfants trouvés de l'époque? Et je vous fais grâce de quantité d'autres choses. J'ai là un extrait de l'Émile. Il n'y a pas de perversité originelle dans le cœur humain. Si l'enfant ne fait que ce que la nature lui demande, alors il ne fera rien que du bien, s'il vous plaît. Cela va donc signifier une discipline parfois quasi absente. Veillez à ne rien imposer. Rédaction, à sujet imposé, impossible, il faut désormais le texte libre, le dessin libre, l'orthographe libre. Mais on oublie que Liber était la divinité romaine du chaos. À la maison aussi, il ne faut pas traumatiser l'enfant, il ne faut pas le complexer. Il faut qu'il choisisse lui-même ce qu'il veut manger et ce qu'il veut lire. Il ne faut pas en faire un être diminué, un anormal, par une éducation répressive. Il ne faut plus gronder bébé. Il ne faut plus donner de fessée à l'enfant. Il ne faut surtout pas donner de biberon à des heures régulières. Voyez qu'on y arrive aux règles pratiques de l'éducation. Mais voyez leur arrière-plan maintenant. Et on en arrive au bébé Spoke. Et il me souvient d'il y a quelques semaines, lors d'un culte ici, le pasteur de cette église évoquait au passage ce fameux docteur Benjamin Spock. Ah, Benjamin Spock. J'ai ici un ouvrage. Tout se joue avant 6 ans. Et en sous-titre, 20 ans après le Spock, voici le Dodson. Dodson, D-O-D, comme Daniel, et pas Dobson, D-O-B. Il y a au moins autant de milliers de kilomètres entre la pensée de Dodson avec un D et celle de Dobson, dont nous avons un certain nombre d'excellents ouvrages sur l'éducation des enfants. Donc, ne confondez pas, il s'agit ici de Dodson et non de Dobson. Et Dodson est simplement un disciple de Spock. Et c'est quand nous avons commencé à élever nos propres enfants que j'ai cherché dans les librairies les livres qui fleurissaient à l'époque. Et nous sommes penchés un peu sur la littérature de ce successeur de Spock. Qui était ce docteur Benjamin Spock? Eh bien, c'est un personnage qui va publier aux USA en 1946 un manuel d'éducation qui va devenir très célèbre. Comment soigner et éduquer son enfant. Dans ce manuel, il va attaquer vigoureusement la vieille éducation répressive du bébé et de l'enfant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ne plus donner d'ordre, plus de fessées, c'est une horreur. Il faut que l'enfant fasse ce qu'il a envie de faire, qu'il se défoule, qu'il acquiert une personnalité autonome, etc. Et il se trouve que ce livre de Spock va tomber dans un terrain tout à fait prêt à l'accueillir. Il va connaître un triomphe, un véritable raz-de-marée, 22 millions d'exemplaires vendus aux USA, 28 traductions de par le monde. Nous étions donc tout juste après la guerre. Et à partir de Benjamin Spock, on va développer un petit peu partout dans les pays industrialisés des programmes d'éducation, je dirais de non-éducation, basés sur les concepts de liberté développés par Benjamin Spock. C'est ainsi qu'en Angleterre, va se fonder une école assez célèbre, Summerhill, qui va devenir un modèle pour beaucoup d'autres, et où l'absence de règles et de programmes va conduire à la liberté totale. Et il va y avoir là aussi un livre intéressant écrit sur cette école de Summerhill. Et dans la préface de ce livre, le préfaceur écrit ceci: « Il n'est pas nécessaire d'apprendre aux enfants comment se conduire. Un enfant apprendra de lui-même ce qui est bon et ce qui est mauvais, pourvu qu'il ne soit pas opprimé. L'enfant est bon. Il n'y a donc aucune justification pour l'enseignement de la morale aux enfants. Les parents gâchent la vie de leurs enfants en leur imposant des croyances et une morale périmée. » Et peu à peu, ces idées se sont infiltrées sournoisement aussi dans l'esprit des croyants et des gens sensés qui ont commencé à se dire « Mais est-ce que nous sommes des anormaux quand nous éduquons nos enfants sans respecter les principes de Rousseau, de Spock et des autres ?» Est-ce que nous nous conduisons en parents indignes? Sommes-nous donc des monstres? Des pères et des mères cruels? Lorsque nous osons donner une fessée à nos enfants? Et puis bien entendu, ceux qui voulaient résister à l'adoption de cette approche de pédagogie très libre, non directive, se voyait marginalisé par la moquerie. Mais vous n'êtes pas dans le vent. Avec tous les problèmes que cela peut poser quand vous êtes bombardé à l'école, à la radio, à la télévision, de concepts de type freudien, de Spock et de ses successeurs. Alors il y a, et encore aujourd'hui, la crainte du « qu'en dira-t-on ? » On cède au chantage de l'enfant. Les parents de Jacques lui permettent de faire ceci ou cela. Ils ne sont pas aussi durs que toi. On a peur de se sentir dévalorisé, de passer pour des retardés. Et on finit par céder. On finit par se conformer. On finit par adopter ce poison d'une éducation très très problématique. Et puis on a aussi parfois la crainte que plus tard, quand notre enfant sera devenu adulte, il ne se venge. Il ne se venge de parents trop durs. Et que sa vengeance, par exemple, consiste à laisser tomber ses parents. C'est fou ce qui peut se passer dans la tête de parents lorsqu'ils sont dans cette crise où ils subissent de fortes pressions de la manière de faire générale de la société. Toutes les peurs, toutes les angoisses, tous les chantages qui s'opèrent vis-à-vis d'eux. Et puis, disons-le peut-être plus fort encore, on cède, souvent en tant que parent, à la recherche de la facilité. Il est tellement difficile de ramer à contre-courant. Quand vous êtes seul ou à quelques-uns, à ramer et à ramer encore à contre-courant de toute une société, et qu'en plus, parce que vous ramez à contre-courant, vous avez des situations problématiques avec vos propres enfants, précisément, parce qu'ils ne manquent pas de vous dire « Mon copain un tel, il a le droit de faire ceci, moi je n'ai pas le droit. » Eh bien, vous êtes tenté de baisser les bras parce que vous préférez avoir la paix aujourd'hui. Et pour avoir la paix aujourd'hui, ben vous laissez aller. En oubliant que l'on récolte les fruits de l'éducation souvent bien des années plus tard. Alors que dans notre monde d'aujourd'hui, il faut récolter le plus vite possible, n'est-ce pas ? On est dans le temps de la rentabilité la plus rapide possible, n'est-ce pas ? Or, il se trouve que dans le domaine de l'éducation des enfants, ça ne marche pas. Et qu'on en ait envie ou non, les fruits se récoltent avec le temps. Les fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Nous l'avons dit plusieurs fois. Quels sont les fruits d'une telle conception de l'éducation ? Écoutez, cette citation, elle est intéressante parce que elle n'est pas d'un moderne. Elle est de Platon. Et Platon, le philosophe grec, a vécu entre 428 et 348 avant Jésus-Christ. Platon écrit ceci. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie. Mes amis, quelqu'un dit que l'histoire nous apprend que l'homme n'apprend rien de l'histoire. Nous avons un mal fou à apprendre. apprendre de ceux qui nous ont précédés. Au point même que pendant un certain nombre d'années, dans la pédagogie de nos écoles, on a minimisé l'histoire, hein, on a voulu couper les racines, et on est en train de revenir, parce qu'on est en train de se rendre compte qu'on a fait des erreurs monstrueuses. Monstrueuses. En attendant, on a sacrifié une génération. Parce que, vous voulez qu'on parle un peu des bébés Spock ? Le gâchis des bébés Spock. Parce que 25 ans après avoir écrit ce livre sur l'éducation en 46, qui a eu tant de succès, le même docteur Benjamin Spock, donc qui avait pris 25 ans de vie lui aussi, hein, et qui avait vu dans sa propre famille des enfants grandir. Il était papa, il était même devenu grand-papa. Et bien entendu, avec un tel père et un tel grand-père aussi célèbre, vous imaginez que dans son entourage, on a aussi adopté ces idées. Eh bien, 25 ans plus tard, Benjamin Spock va rencontrer un grand journaliste de Paris Match, dont j'ai lu pas mal d'articles à une certaine époque, parce qu'il était talentueux. Il s'agissait de Jean Caux, C-A-U. Et Jean Caux va donc interroger le docteur Spock sur les bébés Spock, sur les fruits de ces théories. Et le docteur Spock va avoir l'honnêteté de reconnaître lui aussi qu'il s'était trompé. Alors vous savez, ça fait beaucoup, hein ? On a vu Darwin. On en a vu combien jusqu'à présent, n'est-ce pas ? Pensez à Rousseau, n'est-ce pas ? Et combien d'autres ? En voilà encore un qui reconnaît 25 ans plus tard qu'il s'est trompé. Et Jean Caux, dans cet article, évoque avec humour, je le cite, « la véritable terreur exercée dans les familles américaines, d'abord par les bébés Spock, puis par les enfants Spock, puis évidemment par les adolescents Spock, la Spock génération. » Et voilà ce que le docteur Spock va dire à Jean Caux. Écoutez, c'est une cruelle illusion que nous, les professionnels, avons imposée à des pères et mères. Certes, nous avons agi avec les meilleures intentions, en parlant et en écrivant au sujet de l'éducation des enfants. Nous pensions que cela pourrait les aider. Nous n'avons pas réalisé avant qu'il n'ait été trop tard, combien notre attitude omnisciente pourrait miner la confiance que les parents avaient en eux-mêmes. La soumission des parents aux enfants n'évite pas les déboires. Elle les rend inévitables. La fermeté des parents fait aussi des enfants plus heureux. Et Jean Caux, de faire son petit commentaire, c'est une bombe, écrit-il. C'est l'Amérique qui découvre avec stupéfaction que toute une jeunesse, toute une génération avait été mise sur une orbite folle par les calculs d'un ingénieur rêveur. Et qu'il avoue, l'ingénieur lui-même. Lors d'une de nos précédentes études, j'ai évoqué deux criminologues renommés qui ont fait une étude approfondie sur la délinquance juvénile et auxquels on a posé la question suivante : qu'est-ce qui vous paraît être la cause de la croissance si rapide de la délinquance de nos jours ? Alors nous avions évoqué une partie de la réponse, notamment au niveau des mères qui travaillent, des enfants laissés sans surveillance, etc. Mais ce professeur et son épouse d'ajouter parallèlement à ce bouleversement, l'attitude parentale envers la discipline des enfants a aussi changer assez rapidement. Que ce soit à la maison ou dehors, la tendance a constamment été vers plus de permissivité, c'est-à-dire moins de restrictions et moins de limites posée au comportement. Alors j'ai sous les yeux ici une anecdote, c'est une histoire vraie. C'est une dame veuve, Madame Veuve Dupont, qui est assise dans un autobus en face d'une jeune mère et de son enfant. Et l'enfant n'en finit pas de s'agiter et il finit par mettre même ses souliers sales sur la jupe de cette dame veuve. Alors la brave vieille dame est contrariée et elle fait quelques remarques un petit peu désagréables à la mère de l'enfant. Et la mère de l'enfant lui répond ceci: « Moi, madame, j'élève mon enfant sans autorité. » Et elle accompagne cette parole d'un air supérieur et d'un crachat méprisant. Et voilà que, non loin de là, dans ce bus, se lève un jeune aux cheveux longs qui s'approche, qui crache au visage de la jeune mère et qui lui dit: « Moi aussi, madame, je suis élevé sans autorité. » Nous l'avons lu tout à l'heure, dans 2 Timothée 3, 2. Nous aurions pu le lire sous la plume de l'apôtre Paul écrivant à l'église de Jésus-Christ à Rome, dans la capitale de l'Empire romain. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Mais nous venons d'en donner les raisons de fond. Et vous savez qu'il n'est pas un jour actuellement où les médias ne parlent de ce problème. Pas un jour. Mais où, hélas, on refuse d'aller vers les vraies solutions. Où on bricole, on essaye de bricoler des solutions au lieu d'aller vers la parole de Dieu, dont le message s'avère aussi valable et je dirais efficace quand il est mis en pratique qu'au moment même où il a été donné par les rédacteurs inspirés. Pensez que lorsque le peuple d'Israël, on parle tellement d'Israël aujourd'hui, quand le peuple d'Israël a vécu des décennies et des décennies de décadence spirituelle, éloignement de Dieu, décadence morale, sociale, et qu'il est allé vers son jugement au 6e siècle avant Jésus-Christ, dans un premier temps. Les prophètes, ces hommes de Dieu qui se sont levés par obéissance au Dieu d'Israël pour dénoncer les problèmes qui régnaient, notamment le problème, le prophète Ésaïe, quand il dit, j'ai là un texte, Ésaïe 3, versets 4 et 5 et 12, je le lis dans une certaine version, « Je vous donnerai des enfants comme chefs qui régneront sur vous au gré de leurs caprices. On se maltraitera l'un l'autre, compagnon contre compagnon, voisin contre voisin. Les jeunes gens se dresseront contre les gens âgés. » C'est intéressant, hein ?« Les gens de rien contre les dignitaires. » Ésaïe 3, verset 12, « Mon peuple est opprimé par de jeunes enfants, par des gamins, dit une version, et des femmes le dominent. Tous ceux qui te dirigent, ô toi mon peuple, ne font que t'égarer, ils embrouillent la route que tu dois emprunter. » Prenez le prophète Ézéchiel, chapitre 22, verset 7. « Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. » Et puis alors, Sodome et Gomorre. Genèse, chapitre 19. un tournant dans l'histoire de l'humanité. Quand il est écrit, n'est-ce pas, au verset 4, « Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue, attirée, n'est-ce pas, par la possibilité d'exprimer sa totale perversité dans le domaine de la sexualité. » Et quand on sait, mes chers amis, qu'à l'heure où nous sommes réunis ce soir, il y a des millions de Français qui sont en train de se repaître de certains films qui ne sont rien d'autre que de la pornographie. Bien sûr, on appellera ça érotisme parce qu'on est des gens bien. Mais il y a quelques années à peine encore, on aurait dit de la manière la plus claire qui soit, c'est de la porno. Autrefois, il était difficile d'avoir des cassettes. Maintenant, n'importe quel enfant peut regarder bientôt à n'importe quelle heure les choses les plus horribles qui soient. J'ai ici une déclaration du Talmud. Le Talmud est un recueil de traditions rabbiniques qui interprète la loi de Moïse, et il a été rédigé à partir du 4e siècle. Il y a des choses intéressantes. Dans ce recueil, il est écrit notamment ceci. « Dans la génération qui verra la venue du fils de David, du Messie, la jeunesse insultera ses aînés. Les vieillards seront contraints de se lever devant leurs cadets. Une fille se révoltera contre sa mère, une belle-fille contre sa belle-mère. La face de cette génération sera comme celle d'un chien, c'est-à-dire impudente, effrontée. Un fils n'éprouvera aucune honte en présence de son père. » Je vais vous citer quatre très court texte. Le premier dit ceci. Notre jeunesse est mal élevée. Elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui ne se lèvent pas quand un vieillard rentre dans une pièce. Ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais. Deuxième citation. Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Troisième citation. Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde ne peut pas être très loin. Quatrième citation. Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir notre culture. Maintenant, je vais vous dire à quelle époque ces textes ont été rédigés. Le premier des quatre a été rédigé par Socrate. Et Socrate a vécu entre 470 et 399 avant Jésus-Christ. Le deuxième texte est d'un poète grec qui s'appelle Hésiode. Et Hésiode a écrit en 720 avant Jésus-Christ. Le troisième texte est d'un prêtre égyptien qui a vécu en 2000 avant Jésus-Christ. Et la dernière des inscriptions, hein, cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur, les jeunes gens sont malfaisants et paresseux, ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois, ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir notre culture. Tenez-vous bien, cette dernière citation est vieille de plus de 3000 ans. Elle a été découverte sur une poterie d'argile dans les ruines de la ville de Babylone. Elles sont intéressantes, ces citations. Je ne les commente pas. Mais elles soulignent, comme celle du Talmud tout à l'heure, une vérité biblique qui est à la base d'une bonne application, de bonnes règles pratiques de l'éducation. C'était là que nous voulions arriver. Nous ne pouvons avoir de bonnes règles pratiques d'éducation que si nous acceptons d'abord le verdict de Dieu sur la nature humaine. Et le verdict de Dieu sur la nature humaine, c'est tout d'abord, l'homme n'est pas bon par nature. Non, l'homme n'est pas bon par nature. Et ça, c'est une vérité qui va très vite être prononcée dans la Bible. Il n'y a pas besoin d'attendre que 1000 ans ou 1500 ans se soient écoulés pour que Dieu dise un jour, mais vous voyez, l'homme est mauvais. Non, pas du tout. On a même le sentiment que Dieu s'empresse d'affirmer la chose, puisque il le fait au lendemain même du déluge. Le déluge va avoir lieu, n'est-ce pas, au début de la Genèse, Genèse 6, 7 et 8. Il va avoir lieu parce que l'Éternel constate que les pensées du cœur de l'homme, que l'imagination du cœur de l'homme se traduisent par des attitudes, des comportements absolument infects. L'homme en est arrivé à être complètement pollué et il est complètement tourné vers le mal. Alors Dieu dit à un moment donné, ça suffit. Et il va épargner la seule famille, en particulier son chef, son principal responsable, Noé, qui a la crainte de Dieu dans son cœur. Alors on pourrait penser que le déluge va laver tout ça, laver à grande eau, n'est-ce pas, qui va noyer tous ces problèmes. Pas du tout. À peine Noé est-il sorti de l'arche, à peine le sol est-il sec, que immédiatement Dieu s'adresse à lui et qu'il va lui dire « Oh, en quelque sorte, ça n'a pas changé. Hein. » Le déluge n'a rien changé à la nature humaine. Et nous avons cette affirmation de Dieu lui-même dans Genèse 8, verset 21, « Le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse ou dès son enfance. » Voyez, tout de suite, très tôt, le drame de l'humanité, c'est que le cœur de l'homme est disposé au mal dès son enfance. Nous n'avons pas eu besoin d'apprendre à nos enfants à faire des colères bleues quand ils étaient des bébés roses. Mais c'est fou ce que des vérités, mais toutes simples, qui sont aussi évidentes que le nez au milieu de mon visage, sont complètement laissé de côté, rejeté par des gens soi-disant intelligents. Je me souviens, dans un de mes innombrables voyages en train, avoir fait des kilomètres à côté d'une assistante sociale, nous avons engagé la conversation, nous en sommes bien sûr venus peu à peu à parler des problèmes de société, et hop, on est parti sur la nature humaine. Mais elle a presque fait une crise cardiaque quand je lui ai dit que l'homme était mauvais et que le petit bébé était déjà mauvais. Je lui dis, mais vous savez, je suis papa, je ne suis pas un théoricien, mais j'ai pu constater, je n'ai pas appris à nos enfants à faire ce qu'ils faisaient tout petits, je n'ai pas appris à nos enfants à voler. Quand notre enfant a mis le doigt dans la confiture alors qu'on lui avait dit X fois, tu sais, hein, il ne m'a jamais vu le faire, n'est-ce pas? Proverbe 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La stupidité est attachée au cœur de l'enfant. Et le grand roi David, un homme qui quand même a marqué l'histoire de l'humanité, l'histoire du peuple d'Israël, le grand roi David de reconnaître, après l'adultère avec Bathsheba, dans le psaume 51, verset 7, et on sait que ce psaume, il l'a prononcé devant Dieu dans les larmes, dans le brisement le plus complet, n'est-ce pas? Et il va dire au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Et il ne veut pas dire par là que le fait de l'accouchement soit un péché, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça ce qu'il a voulu dire. Au point d'ailleurs qu'une version va reprendre ce texte en le donnant ainsi, « Je suis depuis ma naissance marqué du péché, depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. » Dans le fond, David réalise comme jamais, après être tombé dans l'adultère et puis toute la suite, n'est-ce pas, où il a essayé de mettre la faute sur les autres, etc., il réalise que ça lui colle à la peau, n'est-ce pas, que comme un léopard ne peut pas aller se baigner dans la rivière et se frotter pour enlever ses taches, il ne peut pas enlever la tache du péché, c'est attaché à sa propre personne, c'est dans ses chromosomes, c'est dans sa nature. Et ça, il faut que nous le comprenions. Parce que c'est dans la mesure où nous comprenons cela, où nous l'acceptons, qu'alors il va y avoir des répercussions sur nos choix de méthode pour l'éducation de nos enfants. Mais si nous sommes des humanistes qui pensons que l'homme est en train de s'améliorer merveilleusement et que bientôt ce sera le paradis sur la terre, il est évident que nous allons prendre des décisions qui seront profondément regrettables. Et dans le fond, les problèmes de l'éducation aujourd'hui qui font que tant de jeunes se conduisent ostensiblement en faisant des fautes absolument incroyables, des choses incroyables, n'est-ce pas, et ne sont pas châtiés. D'où est-ce que ça vient, tout ça? Ça vient d'une conception, précisément, qui est complètement utopiste, qui est liée à l'humanisme. On pense quand même qu'il y a quelque chose de bien qui va sortir de tout ça. Mes amis, l'histoire prouve que ça ne peut pas être le cas. Nous allons nous arrêter là ce soir. Nous avons en quelque sorte posé les bases de ce que nous allons partager durant nos deux études de demain. Nous allons commencer ces règles d'éducation, et nous allons dire, et vous le comprenez maintenant, nous allons poser demain matin une première pierre pratique en disant que il faut une éducation ferme dès le berceau. C'est pas plus compliqué que ça. Une éducation ferme dès le berceau. Parce que dès le berceau, les parents sont mises en présence du problème du péché. Déjà dans leur propre vie, et puis dans la vie de ce tout petit qui est tellement mignon. Mais quand il est né, il a déjà serré les poings. Vous voyez, hein, le petit bébé, hein, vous vous souvenez des nôtres, hein, tout petit, hein, mais... On en reparlera demain matin pour introduire cette éducation ferme dès le berceau. Mais, chers amis, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus-Christ est venu pour changer tout ça. Je bénis Dieu pour le jour où il m'a rencontré en Jésus-Christ, où j'ai pu dire « Je suis mauvais, 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 et je plaide coupable, et j'ai besoin d'être changé, et seul Jésus-Christ peut me changer. Les philosophies humaines ne le peuvent pas, les Freud ne le peuvent pas, les Spock ne le peuvent pas. Mais toi, tu es venu pour que je puisse être changé dans mon cœur, tu es venu pour me donner une nouvelle nature, et pour que je puisse grandir ensuite avec des normes objectives, pas fluctuante, qui bouge tout le temps, pas dans le flou, mais avec des règles claires. Parce que tu es un Dieu qui ne change pas, tu as des principes, ils n'ont pas changé. Le Dieu qui a parlé à Noé au lendemain du déluge s'adresse à moi aujourd'hui en 2002 dans les mêmes termes. Je n'ai pas un Dieu girouette qui change d'idée comme de chemise. Et c'est ma sécurité. Et chaque fois que un homme accepte humblement d'entrer dans la pensée de Dieu, de se soumettre à la pensée de Dieu, adopte la pensée de Dieu dans sa vie, se tourne vers Jésus-Christ, il peut constater que ce que Dieu dit est vrai parce qu'il y a des répercussions dans sa vie personnelle. Si je ne devais avoir qu'un argument pour justifier de ma foi en Christ, je dirais une fois de plus, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Le plus beau témoignage, le plus éloquent de la véracité d'un christianisme biblique, c'est que quand quelqu'un se tourne vers Jésus-Christ, sa vie change. Elle change. Et pour moi, c'est ce qui est le plus éloquent. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Nous voulons prier. Seigneur, nous sommes humiliés. Oh, combien humiliés quand nous pensons aux égarements des pensées humaines. Et nous devons reconnaître que l'homme est vraiment très facilement comme un mouton de panurge. Il emboîte si vite le pas à des idées qui ne prouvent rien. Seigneur, pardonne-nous de nous être si souvent laissés infectés par ces pensées qui en fait flattent notre tendance naturelle. C'est vrai que nous n'aimons pas être encadrés et pourtant nous en avons besoin. Je te remercie ce soir de tout mon cœur pour le jour où tu m'as rencontré. Où tu m'as fait la grâce de m'ouvrir les yeux du cœur, où j'ai compris que j'étais perdu, que mon cœur était mauvais, mais que tu étais venu pour me donner un cœur nouveau et que Jésus-Christ avait payé le prix pour cela en mourant sur la croix. Merci pour le pardon que tu m'as accordé, pour la purification, merci pour le nouveau système de pensée qui s'est mis peu à peu en place. Merci de ce que je peux continuer à apprendre, à regarder comme tu regardes, à entendre comme tu entends, à voir comme tu vois, à me comporter comme tu le veux. C'est une grâce, c'est un cadeau de ta part, parce que tu es venu habiter dans ma vie. Et merci Seigneur, parce qu'ensuite dans l'éducation de nos enfants, cela est tellement précieux, de savoir dans quelle direction aller, d'avoir des objectifs sûrs, des principes venant de toi, et d'avoir ton soutien absolu, ton aide quotidienne, ton secours tout-puissant, jour après jour, dans cette tâche difficile de l'éducation des enfants. Merci Seigneur. Bénis-nous dans notre retour, dans nos foyers. Bénis notre repos, renouvelle nos forces. Nous en avons besoin et nous voulons vivre demain cette journée ensemble sous ton regard, avec reconnaissance. Prépare-la déjà pour chacun d'entre nous. À cause du Seigneur Jésus, au nom de qui nous t'avons prié. Amen.